Voilà, comme je ne m'étais pas préparé à vous apporter un message, 10 minutes avant de partir, je pensais que Michèle allait pouvoir venir quand même. Et en fait, non, elle n'a pas pu se lever. Donc, j'ai sorti un petit message. Donc, excusez-moi si c'est pas très flouane ce matin, parce que je ne me suis pas préparé à vous apporter ce message, mais c'est, je pense, une exhortation qui peut nous aider. Alors, on va prier. Seigneur, merci pour ta parole que nous voulons ouvrir ce matin et la laisser agir, Seigneur, dans nos cœurs. Amen. Amen. Voilà, je pensais vous apporter cette exhortation sur l'influence, qui est un instrument d'établissement du royaume de Dieu. Quand on parle d'influence, qu'est-ce que ça vous dit comme ça, le mot influence? Il y a des réactions, il y a des choses qui sont déjà en vous. Voilà. Leadership. Voilà. Je vois d'où ça vient. Pardon? Domination, ça vous. Voilà, c'est. Vous voyez. Pardon? Agir sur quelqu'un, oui. Voilà, mot influence, vous voyez, parce que les mots, voilà, c'est ça qui nous renvoie vers des concepts, vers des compréhensions, vers des réalités. Influence, encore quelqu'un? Voilà, et positif, négatif, tout à fait. Influence positive, négative. Influence, pardon? Impacté, oui, tout à fait. Vous voyez, impacter, c'est un synonyme. Vous voyez, synonyme, ça veut dire la même chose, mais c'est un autre mot. Voilà, alors on a tous des mots comme ça qui nous parlent. C'est tout? Capacité de changer les choses, oui. Ok. Alors, on va lire le psaume 72, du verset 1 à 12, qui nous parle d'influence. Ô Dieu, donne tes jugements au roi et ta justice au fils du roi. Il jugera ton peuple avec justice, et tes malheureux seront selon le droit. Les montagnes porteront la paix pour le peuple, et les collines aussi par la justice. Il fera droit aux malheureux du peuple, il sauvera les fils du pauvre, et il écrasera l'oppresseur. On te craindra tant que subsistera le soleil, tant que paraîtra la lune, de génération en génération. Il descendra comme une pluie qui tombe sur un terrain fauché, comme des ondées qui arrosent la terre. En ces jours, le juste fleurira et la paix abondera jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de lune. Il dominera d'une mer à l'autre et du fleuve aux extrémités de la terre. Devant lui, les habitants du désert fléchiront de genoux et ses ennemis lécheront la poussière. Les rois de Tarsis et des îles apporteront des offrandes. Les rois de Saba et de Séba offriront des présents, et tous les rois se prosterneront devant lui, toutes les nations le serviront, car il délivrera le pauvre qui crie et le malheureux qui n'a point d'aide. Amen. Voyez, dans le monde chrétien, très souvent, quand quelqu'un demande de l'influence, et aussi de la force, hein, qui va avec l'influence, son entourage souvent doute de sa sincérité, hein, sincérité. Et si une personne dit ouvertement qu'elle aspire à plus d'influence et de pouvoir ou de force, alors il est probable qu'il soit désapprouvé par son entourage. Mais les personnes qui cherchent de l'autorité et de l'influence n'ont pas toutes toujours des intentions impures, voyez-vous. Parce que c'est vrai que l'influence, comme vous l'avez dit, hein, ça renvoie à domination, ça renvoie à tyrannie, ça renvoie, voilà, plutôt les aspects négatifs parce qu'on a souffert, hein, plusieurs et tous, pratiquement plus ou moins, hein, on a souffert d'une influence négative, comme le disait Laurence à juste titre, hein, une influence négative et positive. Donc on voit plutôt le négatif, hein, voilà. À cause des souffrances, à cause des blessures, à cause des problèmes qu'on a eus. Hein. Mais il n'y a pas que les influences négatives. Hein. Donc souvent, et en principe, un chrétien doit avoir des motivations justes, hein, et pas des motivations injustes. Donc ces motivations justes doivent aussi être valorisées, et le chrétien doit recevoir une autorité et une force dans la diffusion et l'instauration du royaume de Dieu dans toutes les sphères d'influence. Alors il y a aussi des sphères d'influence dans la société qui sont l'économique, le politique, c'est une sphère d'influence, les arts, la littérature, les médias, etc. etc. Et c'est vrai que dans le royaume de Dieu, Dieu qui a prévu l'influence, et on a vu hier encore avec Jean-Marc Toubois, qui Dieu a placé l'homme, l'être humain, dans le jardin d'Éden pour qu'il ait une influence, pour qu'il donne des noms aux animaux, et le nom, c'est renvoie à l'autorité qu'on a sur la création. Et l'homme doit avoir autorité sur la création. La seule chose, c'est qu'il ne l'exerce pas selon Dieu à cause du péché. Mais ce n'est pas parce que le péché existe que l'influence ne doit pas exister. Voyez-vous, c'est pour ça qu'aussi, on est très attaché dans notre Église à la démarche du torrent qui purifie, qui est une démarche de libération de la personne. On va d'ailleurs certainement l'appeler démarche ministère de libération de la personne, qui va inclure un certain nombre de démarches, dont le TQP, mais certainement aussi le ministère d'Élie, pour lequel il y a des choses qui se préparent pour qu'on puisse être ministère au niveau de la France, pour ce ministère, au travers de John aussi, qui nous a renvoyé à ce ministère. Et qui complète, parce que nous croyons dans cette Église que pour exercer l'influence, il faut être libéré. Il faut être libéré. Si nous ne sommes pas libérés, si nous voulons juste être sauvés, il y a plusieurs stades. Il y a le fait d'être sauvé. Bon, le sauvé, c'est celui qui accepte Jésus, c'est une grâce pure. Celui qui est à côté de Jésus, qui était sur la croix, il a été sauvé. Vous vous rappelez les deux larrons? L'un qui a blasphémé et l'autre qui a reçu le salut. Mais il n'a pas vécu longtemps. Donc il n'a pas eu le temps de se sanctifier. Donc la différence entre le salut et la sanctification, c'est que le salut, c'est être sauvé, aller au ciel. Et la sanctification, c'est de marcher en disciple. Et ça, c'est plus dur. C'est plus dur parce que nous sommes dans un combat contre nous-mêmes. Combat contre la chair, ce qu'on appelle la chair. Combat contre quoi? Qu'est-ce qu'il y a encore comme influence en dehors de la chair sur nous et qu'il faut combattre? Puissance démoniaque? Pardon? Ah, il y en a qui connaissent leur... Julie connaît bien Neil Anderson. Voilà, c'est l'enseignement de base de Neil Anderson. C'est la chair, le monde et le diable. Et bien sûr, tout ce que représente le diable avec son royaume. Vous voyez, donc, il y a trois sphères d'influence dont il faut se libérer. OK? La libération de Satan, à la limite, c'est la plus simple. C'est ce qu'on appelle la délivrance. Mais tout le reste qui précède, c'est lié à notre volonté. Et là, c'est plus dur. Volonté sur notre chair, on aime bien les passions, les désirs et tout ça, ça c'est notre chair. Et ça, c'est difficile. Parce qu'on a ce qu'on appelle des bénéfices secondaires au péché. Le péché n'est pas que négatif. Il apporte des bénéfices secondaires. Ce qu'il y a, c'est qu'ils sont éphémères. Mais souvent, on est plus attiré par le péché que par la sanctification parce que ça nous apporte des bénéfices. Ce qu'il y a, c'est qu'on ne réfléchit pas que derrière, il y a des choses à payer. Et le diable fait toujours payer des bénéfices qu'on pense être faciles. Donc il y a la chair, le monde, qui influence, bien sûr, qui est gouverné par le prince de ce monde, qui est le diable. Mais le monde a une grande influence et on ne voit pas toujours que l'ennemi est derrière. Donc on se fait avoir. Et bien sûr, le diable, mais comme je vous dis, souvent c'est le plus simple. Parce que il n'a aucun droit sur nous si nous, on donne les droits à Jésus. Donc c'est une question de changer d'autorité. Il faut passer d'un droit à un autre, donner le droit à Jésus. Et ce qu'on appelle la libération de la personne. C'est pour ça qu'on veut que dans cette église, chacun puisse faire cette démarche pour son propre compte, et au niveau individuel, pour libérer les personnes, libérer les chrétiens et rentrer dans la nouvelle dimension pour être influencé par le Seigneur. Le psaume 72, c'est Salomon qui l'a écrit. Et vous savez que Salomon a touché un peu à tout. Il a cru c'est le cantique des cantiques. Salomon est quelqu'un qui qui était un bon vivant, à un moment donné, et qui a fait beaucoup de bêtises. Mais il a aussi apporté cette sagesse qui vient du Seigneur. Et de Salomon, « Ô Dieu, donne tes jugements au roi. » Hein, c'est ce que nous avons lu tout à l'heure. « Ô Dieu, donne tes jugements au roi et ta justice au fils du roi. Il jugera ton peuple avec justice et tes malheureux avec équité. » Au premier abord, on peut penser que cette prière est égoïste et non dépourvue d'intérêt personnel. Mais en poursuivant la lecture, comme on l'a fait tout à l'heure, on voit qu'il demande plus d'influence et de pouvoir pour glorifier Dieu et étendre le règne sur son peuple. La Bible donne plusieurs exemples, hein, démontrant que l'influence est favorable à l'avancement du royaume. Et il est mieux d'en avoir que de ne pas en avoir. Hein. Vous êtes d'accord? Il est mieux d'avoir de l'influence. Souvenons-nous de Joseph. Rappelez-vous Joseph, hein, le fils de Jacob, dont l'influence a non seulement sauvé le peuple d'Israël, mais toute l'Égypte, qui était au bord de la famine à cause de ce qui s'était passé et de la pluie qui n'est pas tombée pendant 7 ans, je crois. L'influence d'Esther aussi, rappelez-vous, Esther, la reine Esther, dans un monde crucial où était au bord de l'extinction du peuple d'Israël, eh bien, ça lui a permis d'apporter la liberté et la délivrance à son peuple, grâce à son influence auprès du roi. En son temps, Daniel aussi est un exemple d'une bonne influence. Et le culte au Dieu d'Israël n'a pas pu être aboli, et le peuple juif a été libéré de l'esclavage. Nous avons aussi des exemples positifs, d'influence positive, dans le Nouveau Testament. Vous avez Joseph d'Arimathée, et Nicodème. Et nous allons le voir dans Jean chapitre 19, au verset 38 à 42. Jean 19, 38 à 42. Après cela, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais en secret, par crainte des Juifs, demanda à Pilate la permission d'enlever le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Il vint donc et enleva le corps. Nicodème, qui était auparavant allé de nuit vers Jésus, vint aussi et apporta un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'aloès. Ils prirent donc le corps de Jésus et l'enveloppèrent de bandelettes avec des aromates, comme c'était la coutume d'ensevelir chez les Juifs. Or, il y avait un jardin à l'endroit où il avait été crucifié, et dans le jardin, un tombeau neuf où personne encore n'avait été déposé. Ce fut là qu'ils déposèrent Jésus à cause de la préparation des Juifs, parce que le tombeau était proche. Si Nicodème et si Joseph d'Arimathée n'avaient pas eu d'influence, eh bien Pilate ne leur aurait pas donné le corps du Seigneur Jésus. Vous le croyez? Mais à cause de l'autorité qu'ils représentaient, hein, tous les deux, hein, ils avaient une place dans la société, ils avaient une place d'autorité. Ils ont pu obtenir l'accord de Pilate. Et grâce à leur influence et leur richesse, ils ont pu, parce qu'il fallait aussi de l'argent, hein, pour embaumer le corps, et leur richesse, ils ont pu faire l'ensevelissement avec tous les honneurs qui était dû aux morts, et en particulier à ce mort qui était Jésus. Nous trouvons un autre exemple dans Actes des Apôtres, dans le chapitre 5. Dans les Actes des Apôtres, chapitre 5. Au verset 33. « Avec une grande puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. » Attendez, je regarde. Non, je ne suis pas dans le bon truc là. 5.33, c'était dans 4 mois, excusez-moi. 5.33, voilà. « En les entendant, ils étaient exaspérés et ils auraient voulu les faire mourir. Mais un pharisien du nom de Gamaliel, docteur de la loi, estimé de tout le peuple, se leva dans le Sanhédrin. Le Sanhédrin, c'est le conseil des 70 qui dirigeait Israël. Et il donna l'ordre de faire sortir ces hommes un instant. Puis il leur dit, « Vous, Israélites, prenez garde à ce que vous avez l'intention de faire à l'égard de ces hommes. Car il n'y a pas longtemps que se leva Teudas, qui se disait quelqu'un, et auquel se rallièrent environ 400 hommes. Il fut tué, et tous ceux qui lui obéissaient furent mis en déroute, et il n'en resta rien. Après lui se leva Judas, le Galiléen, à l'époque du recensement, et il entraîna du monde à sa suite. Il périt aussi, et tous ceux qui lui obéissent furent dispersés. Et maintenant je vous dis, ne vous occupez plus de ces hommes, et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez pas les détruire. Prenez garde, de peur de vous trouver en guerre contre Dieu. » Ils se rangèrent à son avis, puis ils appelèrent les apôtres, les firent battre de verges, leur défendirent de parler au nom de Jésus et les relâchèrent. Et ceux-ci se retirèrent devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom du Seigneur. Et chaque jour, au temple et dans les maisons, il ne cessait d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. Voyez-vous, grâce à l'influence de Gamaliel, de ce pharisien, il n'y a pas que des mauvais pharisiens, il y a aussi des bons pharisiens, et par sa sagesse, il a pu arrêter le dessein de détruire les apôtres. Et nous voyons que grâce à son influence, ils ont pu être frappés de verges, mais cela, c'était pour eux, une grâce de pouvoir souffrir pour la cause de Jésus. Et ils ont pu continuer à annoncer l'Évangile et la répandre autour d'eux et d'avoir aussi une influence. À l'époque où la persécution menaçait l'existence de l'Église. C'était vraiment l'embryon, c'était le démarrage. Si là, les ennemis de l'Église avaient pu... Vous voyez, c'est toujours au début que les choses se gagnent. C'est toujours au début. Moi, je l'ai vu aussi dans tous les combats spirituels que j'ai pu mener, c'est toujours au début. Il ne faut pas laisser l'ennemi prendre de la force, parce qu'après, vous n'avez plus les moyens, ça vous dépasse. Alors, bien sûr, vous avez l'Église, on est là pour vous aider. Encore faut-il demander l'aide. Mais en général, c'est au début. C'est pour ça, mettez en place dans vos vies des choses au début. Voyez-vous ? Alors, on est au début de l'année, je ne vous demande pas de prendre des bonnes résolutions, parce que si vous les faites humainement, vous ne les tiendrez pas. Mais ce n'est pas qu'au début de l'année, c'est tout le temps au début d'une situation. Et pour ceux qui sont dans cette situation aujourd'hui, certains le sont, avec l'aide de l'Église, eh bien c'est au début, tout de suite, qu'il faut agir. Dès que vous laissez faire, ça vous dépasse. Et donc là, au début de l'Église, bien sûr, l'ennemi a voulu utiliser ceux qui étaient contre les apôtres pour les arrêter. Et là, cet homme influent, Gamaliel, a joué un rôle très important dans la destinée de la chrétienté. On le voit un peu plus tard aussi, c'est l'arianisme. L'arianisme, c'est toutes les hérésies ariennes qui reniaient la divinité de Jésus, qui acceptaient ce qu'il a fait, mais qui n'étaient pas fils de Dieu, a failli emporter le christianisme en Occident. Donc là, Gamaliel est au début de l'histoire chrétienne et il intervient grâce à son influence pour empêcher le Sanhédrin. Vous savez que le Sanhédrin, Israël était sous occupation romaine, donc politiquement, c'est les Romains. Mais le Sanhédrin, c'est le conseil suprême, un peu comme la Cour de cassation aujourd'hui, qui décide de votre sort, qui décide oui ou non. Vous êtes exécuté, vous êtes mort, vous êtes mis en prison, etc. Et donc, ce Sanhédrin, s'il n'avait pas tourné dans le bon sens, c'était fini pour les apôtres. Et on ne parlerait peut-être plus de christianisme aujourd'hui. C'en est à ce point-là. Donc, vous voyez, Gamaliel s'est levé Et par son influence et par sa sagesse, vous voyez, c'est une sagesse aussi, hein. Il n'a pas parlé de Jésus. Vous voyez. Parfois, notre sagesse nous pousse, non pas à parler de Jésus, mais dans une circonstance particulière, avoir la sagesse de parler dans cette circonstance. Vous voyez. Olivier, souvent, il dit, oui, moi, je ne parle pas de Jésus, mais les gens, ils viennent me voir, ils me disent, voilà, ils me posent des questions. Voilà. Vous savez, c'est beaucoup mieux quand les gens posent des questions que quand vous les agressez un petit peu avec tout un tas de verbiages qu'ils ne comprennent pas. Bon, ils font semblant de comprendre, mais ils ne comprennent pas. Parce que quand ils vous posent des questions, ils sont réceptifs à ce que vous allez leur dire. Et en fait, vous allez répondre précisément à une question. Et c'est beaucoup plus efficace. Donc, cherchez plutôt à ce que les gens vous posent des questions. Pourquoi tu es comme ça? Pourquoi tu es aussi en paix? Pourquoi tu peux être dans cette condition, etc. Vous voyez. Et là, vous pouvez répondre et parler de la foi que vous avez en Jésus et que c'est lui qui vous aide, etc. Voilà, donc j'insiste un peu sur cet aspect de Gamaliel parce que c'est particulier, étant donné qu'il n'était pas un serviteur de Jésus, Gamaliel, mais il avait cette droiture ou cette sagesse en disant, écoutez, si ça ne vient pas de Dieu, bah les pattes, hein. Enlevez-vous de cette affaire-là, parce que vous voyez comment ça tournait les fois précédentes. Et ça, c'était la sagesse tout simple et qui a permis aux apôtres de repartir, continuer l'œuvre à laquelle ils étaient appelés. Vous savez, chacun de nous, on a une influence particulière, spécifique. Nos lieux de travail, la maison, nos amis, nos proches, tous ceux qui nous entourent, et bien sûr les positions que nous avons. Et cette influence nous est donnée par Dieu comme moyen de propager son royaume. Alors, propager son royaume, ce n'est pas donner des flyers qui parlent de Jésus. Hein. Ce n'est pas du tout ça. Ça peut être un élément qui vous permet de toucher une personne spécifique. Hein. Par exemple, il y a des flyers pour les prisons. Ce n'est pas les mêmes que pour les jeunes ou pour ceux qui sont dans les milieux plus aisés. Bon, ça peut aider. Mais l'influence, c'est vous. C'est vous qui apportez le royaume avec vous. Et c'est ça, la première influence qui doit toucher les cœurs parce que vous amenez Jésus avec vous. Et que Jésus va manifester sa présence au travers de vous et là où vous êtes. Alors réfléchissez bien sur ce que vous pouvez utiliser comme instrument d'influence et d'abord vous-même. Peut-être qu'il vous faudrait, comme à David, prier pour que Dieu multiplie votre influence et grâce à ça, vous pourrez encore avoir plus d'influence dans le royaume, la prière. Bien sûr, il faut savoir utiliser et gérer cette influence. C'est pour ça que Dieu ne le donne pas aussi à n'importe qui, un pouvoir. Parce que le pouvoir, il faut savoir l'utiliser à bon escient. Si une personne aspire au pouvoir pour sa propre satisfaction, alors cette influence sera néfaste. Mais si cette personne, si ce chrétien cherche le pouvoir pour manifester le royaume de Dieu, eh bien Dieu donnera ce pouvoir. C'est le cas de Daniel. Daniel, son cœur était pur. Et on le voit. Il se soumettait jusqu'à un certain point, avec respect, avec dignité. Il s'est adressé à son supérieur en disant, écoute, voilà, Dieu nous a demandé de ne pas prendre ses mets. Fais-nous la faveur de ne pas le faire. Vous voyez, mais il le faisait dans une attitude de soumission. Il n'est pas de revendication, mais de soumission. Et le Seigneur est toujours favorable à ça. Donc, il a permis à ce qu'il ne puisse pas manger les mets du roi. Mais on voit qu'il a attendu. Daniel n'a rien revendiqué dans toute sa vie. Mais Dieu l'a placé dans une position d'influence et d'autorité. C'est Dieu qui influence et qui intervient au bon moment. Je me rappelle un moment donné dans ma carrière, comme j'étais ingénieur à EADS pour fabriquer les fusées, je sortais droit moulu d'une école d'ingénieurs. Vous voyez, alors voilà, on a plein la tête de tout ce qu'on a appris. On va dire, oh, on va faire des choses formidables, quoi. Puis on arrive, hop, on nous donne des tâches à faire. Bon, au début, on accepte. Puis au bout de quelques années, on dit, bah, attends, je vais perdre tout ce que j'ai appris. Qu'est-ce que je fais, etc. Quoi. Et donc, je me suis mis à disposition pour chercher un autre travail ailleurs. Vous voyez, parce que là, j'avais pas... voilà, je n'étais pas satisfait de ce qu'on me donnait. Et puis, le Seigneur a conduit, parce que je me suis adressé à un grand directeur à l'époque, un des quatre grands directeurs de l'aérospatiale, et il m'a écrit en me disant, nous, reste à ta place. Ok, je l'ai considéré que c'est une direction du Seigneur, je suis resté. Et quelques temps après, on m'a appelé, et c'est mon supérieur hiérarchique qui m'a appelé en me disant, écoute, cette nuit, à 4h du matin, je suis réveillé, je ne suis pas chrétien du tout, hein, et j'ai une lumière, et je ne sais pas, il fallait que je mette ton nom, parce qu'il y avait une case, parce qu'ils étaient en train de créer une nouvelle unité de production qui maintenant... est connu de partout parce que les avions sont faits dans ces matériaux composites, là, carbone et autres. Et à l'époque, on ne connaissait pas ça. On avait juste quelques fibres qui venaient du Japon. Voilà, et donc, ils voulaient donner la responsabilité de cette unité de production. Il a dit, c'est toi que je vais mettre là. Je dis, mais moi, j'ai aucune expérience. J'avais 200 personnes à diriger, comme ça, de 4-5 à 200. Alors, j'étais affolé. Bon, j'ai eu une sorte d'ulcère à l'estomac après, parce que voilà, mon corps a réagi, le stress et tout. C'est parti. Mais vous voyez, au temps voulu, Dieu agit. Et ce n'est pas lui, c'est Dieu. Hein, vous voyez. Donc, si on attend, si on laisse le Seigneur agir, comme pour Daniel, eh bien, il agira en son temps. Il éprouve notre patience, il éprouve notre foi. Mais en son temps, c'est lui qui agit. Voyons dans Matthieu au chapitre 20 et au verset 20. Matthieu, chapitre 20, verset 20. Un autre exemple d'influence. Matthieu 20, verset 20. Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit, que veux-tu ? Ordonne, lui dit-elle, oui, il ne va pas de main morte, hein, la femme, ordonne, lui dit-elle, que mes deux fils, que voici, soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. C'est pas mal hein, comme mère, hein. Vous avez une mère comme ça, hein. Vous êtes bien assisté. Hein. Bon, il ne faut pas qu'elle soit potomitante, mais bon, peut-être qu'elle l'était. Et Jésus répondit, vous ne savez pas ce que vous me demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ? Wow, il ne s'attendait pas à cette réponse. Hein. Et souvent, on demande des choses au Seigneur, mais hein, il faut écouter la réponse. Là, c'était coton. Hein. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire. Rappelez-vous la coupe, c'était la coupe du Seigneur qui lui a donné des grumeaux de sang pour boire cette coupe. Nous le pouvons, dirent-ils. En plus, ils ne sont pas dégonflés. Hein. Nous le pouvons. Voyez-vous l'orgueil de l'homme ? L'orgueil, c'est même pas ce qu'il dit. Nous le pouvons. C'est même pas ce que c'est que cette coupe. Voilà, petit tac au tac. Nous le pouvons. Hein ? Combien souvent nous sommes comme ça ? Ah, on le peut ! Eh oui, Pierre aussi a dit un jour, hein, Seigneur, je te quitterai pas, ouais, tout le monde l'a quitté, mais pas moi. Et qu'est-ce qu'il dit le Seigneur ? Avant que le coq ne chante, tu me renieras. Trois fois. Vous savez, restons dans l'humilité. Nous le pouvons être. Si le Seigneur n'est pas avec nous, nous ne pouvons rien du tout. Et il lui répondit, il est vrai que vous boirez ma coupe. Ça c'est bon. Mais, pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela n'est pas à moi de le donner, sinon à ceux pour qui cela est préparé par mon Père. Vous dites Amen ? Voilà, même Jésus s'en occupe pas, c'est le Père. Les 10 qui avaient entendu cela furent indignés contre les deux frères. Et Jésus les appelait et dit, vous savez que les chefs des nations les tyrannisent. Et que les grands abusent de leur pouvoir sur elles. Il n'en sera pas de même parmi vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous sera votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous sera votre esclave. Et ainsi, c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Voyez-vous là, le Seigneur donne un enseignement. Et hier, on a eu cet enseignement aussi sur le pouvoir politique hein, dans le royaume de Dieu. Et à votre avis, qui est-ce qui peut tenir le pouvoir sans broncher, sans tomber dans la corruption? C'est qui? C'est étonnant que j'entende qu'une personne qui parle. Vous devriez tous avoir à la lèvre Jésus. Vous pouvez dire Jésus? Encore. Encore. Jésus. Ok? Comment ça va se passer? Bon, tout ça, je renvoie à l'enseignement de Jean-Marc. C'est trop long, puisqu'il a parlé 6 heures. Hein. Je peux parler 6 heures et j'en suis incapable, comme il le fait. Mais c'est Jésus. Et quand on n'est pas conscient de cela, vous voyez, on se monte sur un piédestal, on fait croire, on se fait croire à soi-même qu'on a une capacité, on n'a aucune capacité. Et aucun d'entre nous peut exercer le pouvoir sans être corrompu. Je renvoie au Seigneur des Anneaux, que je me suis obligé de regarder. On a Noël les jours de l'an, parce qu'on parle tellement. Je ne pensais pas qu'il était aussi long. J'ai vu la trilogie, les trois. Hein. Et effectivement, c'est tout à fait cette histoire. Hein. Sauf que Tolkien, contrairement à C.S. Lewis, n'a pas voulu le placer dans l'histoire de la rédemption, puisque ce n'est pas de la rédemption dont il s'agissait, donc il l'a exprès placé avant Jésus-Christ pour ne pas inclure la notion de la rédemption. Mais c'est tout à fait l'histoire de ce pouvoir qui corrompt, et qui corrompt absolument dès qu'on veut monter vers le sommet. Plus on monte vers le sommet, plus c'est difficile de tenir. Moi, un jour que j'ai grimpé dans la hiérarchie à mon travail, et j'ai ensuite après rencontré quelqu'un qui était le chef de département, qui était chrétien, il m'a dit, c'est moi, à un moment donné, j'ai dû refuser les postes qu'on m'a proposés. Parce que je savais qu'il y avait de la corruption obligatoire. Isabelle, d'ailleurs, Isabelle Casalis, avait un neveu, je crois, qui un jour était un génie, hein, qui était convoqué par Monsieur Dassault. Hein. Il a dit, voilà, je te donne tout ce que tu veux. Ah, c'est super, voilà, parce qu'il était un génie pour son entreprise. Elle dit, par contre, si je te demande de tuer quelqu'un, il faudra que tu le fasses. Oh, là. Ça refroidit, hein. Voilà. Mais vous voyez, le pouvoir. Bon, là, c'était clair, comme ça, les choses étaient sur la table. Et bien sûr, il a refusé. Mais vous voyez, bon, ça s'est passé en privé. Hein. Mais là, votre conscience, vous voyez, à un moment donné, est en face du pouvoir. Ben oui, parce que, vous voyez, à ces niveaux-là, quand quelqu'un vous embête, vous ne donnez pas une tape. Hein. Ça va un peu plus loin, vous voyez, comme quoi on élimine la personne. On s'est fait discrètement, hein, comme certains le savent le faire, mais ça sera fait. Voilà. Et il faut obéir. Pas question de rechigner. Et ça, c'est le pouvoir. Vous voyez. Et c'est ce que Jésus dit. Il vous tyrannise. Il vous tyrannise. C'est la tyrannie. Et quand on veut du pouvoir et qu'on n'a pas la capacité de l'humilité, on tyrannise. Qu'on le veuille ou non. C'est l'anneau du Seigneur des Anneaux. Et oui, c'est pas possible autrement. Parce que nous avons un pouvoir, une nature corrompue. Et cette nature corrompue attire la corruption. Et oui, c'est notre chair. Et elle ne s'en va pas au salut. Hein. C'est pour ça que le problème de la sanctification est un autre problématique que le salut. Le salut, c'est très simple. Vous acceptez Jésus. Laron à la croix, il est sauvé. Terminé. Mais la sanctification, waouh, c'est tout un programme. Hein. Wesley, c'est celui qui certainement a le plus développé la sanctification, qui a donné le méthodisme, et le méthodisme est peut-être celui qui est le plus corrompu aujourd'hui. Hein. Le méthodisme, aujourd'hui, c'est les grands de ce monde qui vont dans les églises méthodistes, protestantes, hein, que ce soit les présidents américains, que ce soit méthodistes. Et, parce que l'ennemi veut toujours corrompre ce qui le gêne le plus dans son royaume. C'est pour ça qu'un des critères, vous regardez autour de vous, vous regardez, vous voyez une corruption, vous dites, ah, là c'est l'ennemi qui est derrière, parce que c'est la marque de l'ennemi, c'est de corrompre tout ce que Dieu veut faire de bien, il le corrompt. Et là, vous voyez, eh bien, cette mère de ses fils est tombée dans le panneau et voulait que ses fils eh bien, soient assis l'un à droite à sa gauche. C'est le pire de ce qu'elle aurait pu demander pour ses fils. Vous voyez. C'est de les mettre à une place où ils seraient corrompus complètement et ils ne s'en rendaient pas compte. Et Jésus dit, est-ce que vous pouvez boire la coupe? De toute façon, vous la boirez. Mais est-ce que vous pouvez la boire? Il vaut mieux accepter la coupe avant d'être obligé de la boire. Voyez-vous ce que je veux dire? Ça, c'est l'humilité. Dire, Seigneur, je m'incline devant toi et je n'attends pas à ce que tu sois obligé de me faire passer par le creuset. Quand on a des idoles, vous savez ce que c'est qu'une idole maintenant? Vous avez entendu mes messages. C'est quoi une idole? Oui, mais au départ, qu'est-ce qui produit nos idoles? C'est le bien poussé à l'extrême. Il faut dire le bien, parce que sinon, on ne comprend pas ce que c'est qu'une idole aujourd'hui. Parce que sinon, on voit une idole comme une statue. Bien sûr, les catholiques sont idolâtres, tout ça, bon, c'est facile. Non, nous, c'est du bien. Alors dites tous, c'est du bien qu'on pousse à l'extrême. Voilà. C'est du bien qu'on pousse à l'extrême. C'est ça, une idole. Parce que le beau, le bon en soi, en Dieu, c'est bien. Mais quand on le pousse, ça devient une divinité, ça devient un Dieu et c'est une idole. Et c'est là qu'on tombe dans le piège. Mais c'est bien. Ben oui, c'est bien. Le problème, c'est que ça remplace Dieu dont tu dois être en relation, tu dois être dépendant de Dieu et pas du bien ou de ce qu'il a créé. Parce que le bien, le beau, tout ça, c'est une création, c'est une manifestation de la création, mais c'est pas Dieu. Dieu, c'est une personne. Donc, ça aussi, le pouvoir, bien sûr, c'est une idole de vouloir être assis à droite ou à gauche du royaume. Ce n'est que laisser au Père. Et même Jésus était dépendant du Père, rappelez-vous. Jésus était jusqu'au bout de la croix dépendant de son Père. Parce que il est dit que Dieu fait grâce aux humbles. Dis-le à ton voisin. Dieu fait grâce aux humbles. Dieu fait grâce aux humbles. Olivier, dis-le à ta voisine. Dieu fait grâce aux humbles. C'est important de se mettre ça dans la tête. Dieu fait grâce aux humbles. Il n'y a que l'humilité, mes frères et sœurs, qui peuvent vous amener à la gloire. Parce que l'orgueil précède là. Et l'orgueil, c'est quoi? C'est de se sentir capable, suffisant, autonome. Vous voyez? L'antéchrist, c'est celui qui nous pousse à l'autonomie. C'est tout. Moi, il y a quelques années, je pensais que l'antéchrist était waouh, c'est quoi tout ça? Voilà, j'avais peur et tout ça. Bien sûr, il y a des représentations qui font peur. Mais c'est tout simple. L'antéchrist, c'est celui qui est. En anglais, c'est une langue beaucoup plus pratique que le français. L'antéchrist s'appelle lawlessness, the man of lawlessness. Ça veut dire quoi, lawlessness? Dire sans loi. Sans loi. C'est l'homme qui est sans loi, voyez-vous. Donc l'antéchrist, ça prend une autre texture dans notre pensée quand on parle de l'homme sans loi. Il y a juste une loi qui compte pour l'antéchrist, c'est la sienne. Moi. Ça, c'est la loi, voyez. Ça, il ne le dit pas. Mais sans loi, ça veut dire que toi, tu me dis quelque chose? Mais sinon, c'est toi. C'est toi, c'est ta loi. J'accepte pas ta loi. Moi, c'est ma loi. Toi, tu me dis quelque chose? Ben non, c'est toi la loi. C'est toi qui le penses comme ça. C'est ça l'antichrist. Quand on est capable de dire, mais non, toi, tu me dis quelque chose, mais de quel droit tu me parles? Toi, c'est ta loi, c'est toi ce que tu penses. Mais moi, je pense autre chose. Je suis au-dessus. Dès qu'on est comme ça, on est dans l'orgueil. Et l'orgueil précède là. Et l'humilité précède là. Alors choisissez. Choisissons. Il y a deux voies. Comme le disait Jean-Marc, il y a deux voies. Il y a l'humilité et l'orgueil. Dans le psaume 72 qu'on a lu tout à l'heure, on va y revenir là juste maintenant, il est dit plusieurs choses dans le déroulé de ce psaume. Il est dit, il jugera ton peuple avec justice et tes malheureux avec équité. Et David demande à Dieu de faire de lui un homme juste. Il demandait de l'ordre dans sa vie privée pour faire la volonté de Dieu et manifester le caractère de Dieu. Car il comprenait quelles étaient les priorités de Dieu. Il savait que s'il ne se manifestait pas, qu'il ne manifestait pas ce que la Bible appelle la justice et l'équité, il ne pourrait pas le transmettre aux autres. Avant de transmettre, d'enseigner aux autres, il faut se faire soi-même. Il faut exercer la justice. Deuxième chose, au verset 3, les montagnes porteront la paix pour le peuple et les collines aussi par l'effet de la justice. David demande l'influence pour apporter la paix. Est-ce que vous êtes un homme, une femme de paix? Là où Dieu vous place, de paix. Non seulement vous ne poussez pas des conflits, mais vous les faites diminuer, les conflits autour de vous. Ça, c'est un homme, une femme de paix. Donc l'influence peut être utilisée comme un vecteur de paix. Par exemple, il y a aujourd'hui Jimmy Carter, qui est un président américain, chrétien, baptiste, pasteur baptiste, qui est utilisé pour porter la paix dans les régions, dans les conflits. On ne l'entend pas tout le temps à la radio, mais on le voit dans les différents conflits, il peut apporter la paix. Au verset suivant, verset 4, « Il fera droit aux malheureux du peuple, il sauvera les enfants du pauvre et il écrasera l'oppresseur. » L'influence peut être utilisée pour libérer les malheureux par le biais de la Bible et apporter la justice aux pauvres et aux captifs. Et Dieu peut nous utiliser, il peut utiliser des artistes, il peut utiliser le monde du showbiz. Quand ils sont dans cette situation, ils peuvent influencer pour libérer et aider aussi, par exemple, à Darfour. Il y a aussi des chrétiens qui sont allés, qui sont toujours pour apporter la justice et la paix. Nous avons une influence dans ces domaines-là. Au verset 5 et 6, « On te craindra tant que subsistera le soleil, tant que paraîtra la lune. De génération en génération, il sera comme une pluie qui tombe sur un terrain fauché, comme des ondées qui arrosent la campagne. » Ces versets montrent que l'influence peut être un moyen pour étendre la gloire de Dieu et la crainte de Dieu au milieu des fils des hommes. Ce qui est très important, car c'est seulement ainsi qu'un pays peut devenir le territoire du royaume, quand la crainte de Dieu et sa gloire y règnent. Voyez-vous, nous, ça fait plus de 25 ans avec Michel que Dieu nous a placés dans cette fonction pastorale, de manière bivocationnelle, et maintenant à plein temps avec vous. Mais on a toujours peur des chrétiens qui ne sont pas dans la crainte de Dieu. Ça ne nous dérange pas que les chrétiens aient des problèmes de toutes sortes et tout ça, on est là pour ça. John Wimber nous disait, quand vous voulez faire une pêche, il faut pêcher les poissons, mais il faut les écailler. Vous avez déjà vu sur les bateaux? Ils ont des écarisseurs là. Non? Vous avez jamais vu des... Voilà, hein, ils ont des grands couteaux, ils les écarissent, nettoient, tout ça, puis après ils les stockent et ils les mettent en vente ou ils mettent au congélateur et puis... Ok? Il y a un travail de nettoyage à faire, hein, c'est... Tu peux pas manger le poisson comme ça. Ah bah, le chrétien, c'est pareil. Il a dit, je vous ferai pêcheur d'hommes. Bah, les poissons, il faut les nettoyer. Donc n'ayez pas peur, des gens qui viennent qui sont pas comme vous, c'est normal. Mais vous êtes là, c'est pour ça, on vous écoute, on vous équipe pour que vous puissiez libérer ces personnes. Il faut pas avoir peur, mais il faut y aller. Il faut prendre l'écarisseur en disant non, j'accepte pas que tu te comportes comme ça, je n'accepte pas cette église. Il faut que tu acceptes, non pas de devenir parfait, mais de rentrer dans une dimension où le Seigneur va t'utiliser et on n'aura pas besoin d'avoir peur d'une rébellion parce que tu as la crainte de Dieu. Il faut amener les personnes, quand c'est possible, c'est pas évident, hein, la crainte de Dieu, il y en a qui les ont presque naturellement, ils respectent Dieu. La crainte, c'est le respect de Dieu. C'est de savoir que si je pêche contre Dieu, d'abord, avant de pêcher contre les hommes. Et les chrétiens qui n'ont pas la crainte de Dieu, je peux vous dire, il faut se méfier comme la peste. Comme la peste. Parce qu'ils sont, ils sont sous influence, et ils peuvent être sous influence rapidement des démons. Parce que les démons, ils cherchent des chrétiens qui sont rebelles. Les démons, ils cherchent des chrétiens où ils peuvent avoir prise sur eux. Voyez, et ça, on se méfie en premier. C'est pour ça qu'on a aussi des lois qu'on fait respecter. Parce que certaines personnes ne veulent pas accepter. Et là, il faut les mettre en prison. On va dire non. On n'accepte pas que vous blessiez l'ensemble du troupeau. Le troupeau, il veut marcher dans la crainte, mais en même temps, il ne veut pas être tyrannisé. Donc il faut que le troupeau soit libre. Vous voyez, c'est comme les blessures du cœur quand on fait de la relation d'aide. Ceux qui ont fait Bruce Thompson, vous avez fait Bruce Thompson, non? C'était au Jeunesse en Mission au début. Voilà, c'était un psychologue ou même psychiatre, je ne sais plus, un docteur Jeunesse en Mission. Et il montre dans son livre au début, vous l'avez fait, je crois, avec Yves Cournaz. Hein, voilà. Oui, oui, bien sûr, Marie-France, Julie. Et il y a dans son livre justement un mur. Il montre que dans notre cœur, vous voyez, vous dessinez un cœur, et vous avez un mur. Et le cœur, quand on est tout petit, tout enfant, eh bien, on est blessé par toutes sortes de choses. Hein, c'est le péché. Donc, on est blessé. Alors, il y en a qui sont blessés tout petits déjà. Hein, je connais des fois des enfants, hop, ils tombent de coucher, hop, ils tombent par terre. Bon, ça peut être grave. Donc, on peut être blessé tout petit, mais blessé plus grand aussi. Et qu'est-ce qu'on fait quand on est blessé? Naturellement, spontanément. Alors, on blesse, ça c'est une conséquence, mais on se protège. Hein, on va se protéger. Donc, qu'est-ce qu'on construit? On construit un mur. Voilà, une brique, deuxième brique, troisième brique. Alors, si jamais il y a d'autres blessures, on construit d'autres briques. Donc, on construit un mur autour de notre cœur, voyez, un mur de briques. Et c'est normal, il faut se protéger, okay, pour ne pas être agressé. Mais qu'est-ce qui fait ce mur? Il sépare des autres. Voyez-vous, donc, quelque part, c'est une protection, mais en même temps, ça vous empêche de recevoir des autres et surtout de Dieu. Ça empêche de recevoir l'amour de Dieu. Et il y a des chrétiens qui disent, mais je ne ressens pas l'amour de Dieu. Et toute leur vie, c'est dramatique, hein, parce qu'ils ne peuvent pas progresser. Non, je ne ressens pas l'amour de Dieu. Mais oui, mais parce que ce mur que vous avez construit dans votre passé à cause de toutes les blessures, fait que vous ne pouvez pas recevoir. Donc il faut enlever ce mur. Oui, mais si on enlève ce mur, on est vulnérable et à ce moment-là, on reçoit toutes les agressions. Vous voyez, c'est problématique, c'est un paradoxe, c'est quelque chose de, voilà. C'est pour ça que Jésus a dit, dans le monde, il vous tyrannise, donc vous protégez de la tyrannie. Donc qu'est-ce qu'il faut? Ben, il faut déjà être dans une église où on est sécure. Première chose. Une église doit être sûre. Et moi, mon rôle, un de mes rôles premiers, c'est d'assurer la sécurité dans l'église pour que vous puissiez vous découvrir, permettre à ce mur de se déconstruire et recevoir la protection du Seigneur. Bien sûr, il y a une protection, mais c'est le Seigneur qui l'assure. Hein, mais ce n'est pas vous. Mais nous, dans le psychique, hein, on construit ce mur parce que c'est une construction naturelle de protection. Vous voyez ? Et donc, moi, il faut que je vous assure cette protection. C'est un de mes premiers rôles que je reçois du Seigneur, et que j'ai compris, pour que vous puissiez vous découvrir et vous confier les uns aux autres, etc. Et quand je vois qu'il y a quelqu'un qui se confie à des gens qui ne sont pas sûrs, ben je dis, attends, là, il y a un problème, et il faut intervenir. Pour que l'Église puisse grandir dans l'amour du Seigneur et la confiance dans ce que le Seigneur est notre protection, et pas nos murs. Vous avez compris? Ça, c'est de la relation d'aide. Et ça renforce le TQP et c'est ce qu'on rajoute aussi après le torrent qui purifie. Dernier point, au verset 8 à 12, il dominera d'une mer à l'autre et du fleuve aux extrémités de la terre. Devant lui, les habitants du désert fléchiront le genou et ses ennemis lécheront la poussière. Les rois de Tarsis et les îles paieront des tributs. Les rois de Saba et de Séba offriront des présents. Tous les rois se prosterneront devant lui. Et toutes les nations le serviront, car il délivrera le pauvre qui crie et le malheureux qui n'a point d'aide. Nous voyons ici que l'influence peut être utilisée pour amener le règne et la suprématie de Dieu. David demandait de l'influence, non pour satisfaire ses intérêts, mais pour établir le royaume de Dieu. Et il comprenait le rôle et l'importance de cette influence. Quelle est notre influence? Quelle est votre influence? Dans quelle sphère pouvez-vous utiliser votre influence pour faire avancer le royaume? Peut-être que vous avez une belle apparence physique ou une très jolie famille. Tout cela peut contribuer à la gloire de Dieu, pour être un moyen pour l'utiliser. Mais voilà, on n'a pas besoin, on peut commencer cette influence, même si on n'a pas un passé. Mais si on a un passé, on est responsable aussi de ce passé. Donc soyons courageux. Le Seigneur a dit à Josué, avant qu'il rentre dans cette terre qui a de l'influence et qui est maintenant Israël, fortifie-toi et prends courage. Amen. Alors fortifions-nous et prenons courage dans le Seigneur. Et je terminerai par vous donner ces sept éléments de l'influence. La véritable influence appartient seulement à ceux qui vivent selon les standards de Dieu. La véritable influence, celle qui vient de Dieu, celle qui n'est pas opprimante, celle qui n'est pas tyrannisante, celle qui est une influence bénéfique, eh bien, n'est donnée qu'à ceux qui vivent selon les standards de Dieu. Rappelez-vous Saül ? Dieu a dit, je ne veux plus de ce roi. Et il a écarté. Et David a été mis à sa place parce qu'il avait les standards de Dieu. Il avait son cœur qui était tourné vers l'humilité devant le Seigneur. La deuxième chose, c'est l'influence peut être utilisée pour le bien, mais aussi pour le mal. Et il est important de savoir la gérer. Troisième point, l'influence peut contribuer à restaurer le monde et la justice. Et vous, on va démarrer prochainement un groupe. On va aller dans les business de cette région, hein, d'abord chez Jérôme, ensuite après, etc. Et on va bénir. On va demander au directeur, au manager, peu importe, de convoquer son staff. C'est lui qui décide. Et on va dire, on vient là pour vous apporter un repas. On va manger avec vous et on va bénir votre entreprise. Quels sont vos problèmes ? Vous avez tel problème, fournisseur qui a une difficulté avec vous, etc. Vient vous bénir. Vous voyez, on est là pour bénir. Et pour influencer eh bien, ceux qui entreprennent. On veut des entrepreneurs hein, qui apportent, qui enlèvent le chômage. Hein. Et en cela, nous sommes appelés sur cette terre à agir pour le bien. Troisièmement, l'influence permet, quatrièmement, de propager les principes de Dieu. Et les principes de Dieu doivent être dans notre cœur, sinon on ne peut pas les propager. C'est les gens voient, ils regardent comment on agit. Et si on agit selon le principe, ils vont être influencés. Cinquièmement, l'influence peut être un instrument d'instauration du royaume de Dieu sur la terre. Donc c'est l'influence elle-même qui va montrer que nous avons une force, une détermination. Nous sommes bien dans nos bottes, comme on dit, hein, dans notre identité. C'est pour ça l'identité en Christ, c'est la base hein, du torrent. Sixièmement, l'influence est le statut. Doivent être utilisés pour le bien des gens et le royaume de Dieu. Si on avait un statut, une position, eh bien nous devons l'utiliser pour le royaume et pour l'avancement de son règne. Amen. Et je terminerai par l'humilité et le service. Et c'est pour ça que je renvoie au Seigneur des Anneaux que j'ai vu, hein, Gandalf. Il a compris que l'anneau, hein, il a un pouvoir en soi. Hein. Voyez-vous, au début du film, Gandalf, c'est... cet homme un peu énigmatique là, hein, qui est toujours là pour libérer les situations impossibles. Au départ, il n'a pas voulu y toucher. Hein. C'est quand vous avez compris qu'au départ, tout pouvoir, quel qu'il soit, vous ne vous touchez pas vous-même, parce qu'il a une potentialité de corruption, c'est là que vous êtes à l'abri. Lui, il était à l'abri. Et dans tout le film, la trilogie, personne n'a été à l'abri, sauf lui. Donc soyez ce Gandalf, hein, qui au départ, hein, dès qu'il y a un pouvoir, vous dites non, sauf toi Seigneur, si tu me places dans ce pouvoir. Moi je ne le réclame pas, je le prends pour ta gloire. Ça c'est l'humilité. Amen. C'est Joseph, c'est Daniel, ce sont des hommes et des femmes de cette trempe, Esther, hein, Ruth. Okay. Parce qu'on est dans le principe de l'idole. Hein. Le pouvoir, c'est une chose bien, mais quand on le pousse plus loin, par sa propre autonomie, elle nous détruit. Elle nous est cassée sur la tête. Donc il faut nécessairement la soumission au Créateur. Et ça s'apprend en se soumettant. Dis à ton voisin, la soumission s'apprend en se soumettant. Vous savez, il y a des gens qui pensent toujours à des choses magiques hein, en tant que chrétien. Bon, ah, la soumission, ça va me tomber dessus. Non, ça ne vous tombe pas dessus. Hein. Ça ne vous tombe pas dessus. Hein. Il faut l'apprendre. Hein. C'est comme vous dites à quelqu'un, bah, tiens, tu vas faire de la nage, si c'est un peu nager, tu vas faire les Jeux Olympiques. Hein. Voilà. Hein, tu vas faire les Jeux Olympiques, pourtant, tu nages mieux que mon fils. Hein, il a dit, Charles... Hein. Mais tu ne vas pas t'amuser à ça, c'est que tu vas être battu. Oui. Mais l'orgueil fait que, ah oui, j'y arrive. Ben non, faut rester humble. Tu peux y arriver par la grâce du Seigneur. Mais alors là, hein, il faut vraiment, vraiment qu'il soit avec toi. Hein. Sinon, t'es laminé. Hein. Voilà, l'humilité, c'est de apprendre la soumission en se soumettant, en apprenant la soumission, en acceptant d'être soumis. L'obéissance, c'est Jésus. Il a pris l'obéissance par quoi ? Par les choses qu'il a souffertes. Donc ne refusez pas la souffrance. Il y a des chrétiens qui veulent refuser la souffrance. Ben, mes amis, vous êtes mal là. La souffrance fait partie de l'obéissance. Ok ? Souffrance volontaire. Dieu ne vous oblige pas à souffrir. Jamais. Mais vous, vous pouvez vous obliger à accepter la souffrance pour apprendre l'obéissance. Et l'obéissance amène à l'humilité. Et l'humilité amène à la gloire. Amen. Alors, si vous voulez la gloire, le chemin, c'est Jésus. Regardez Jésus. Et on va le faire maintenant au travers de la scène qui nous rappelle cette humilité de Jésus. Et ce modèle qu'il est pour nous, et on va le prendre avec dignité. Les personnes qui ont été désignées, il me semble que...